les cours d'économie.
Quatre banques commerciales établies en RDC s'associent pour financer la dette du gouvernement congolais envers les compagnies pétrolières. Equity BCDC, Afriland First Bank, EcoBank RDC et Standard Bank vont disponibiliser plus de 120 millions de dollars américains à cette fin. La ville de Goma, isolée et coupée de presque tous les six territoires qui l'entourent, des conséquences économiques se font déjà sentir. Nous en parlons dans cette émission. Bienvenue à tous. Quatre banques commerciales établies en RDC s'associent pour financer la dette du gouvernement congolais envers les compagnies pétrolières. Il s'agit d'Equity BCDC, Afriland First Bank CD, EcoBank RDC et Standard Bank. Cette action de syndication appelée Club Deal permet à ces institutions bancaires de disponibiliser un financement de 123,5 millions de dollars américains. Plus de détails avec Cynthia Bachizi Nabizana.
L'information est contenue dans un communiqué rendu public par la banque Equity BCDC ce lundi 12 février. Cet accord est le fruit d'une synergie entre ces quatre principales banques ainsi que trois ministères clés, l'économie nationale, les hydrocarbures et les finances. Il est centré sur la restructuration de la dette publique chiffrée à plus de 100 millions de dollars américains aux sociétés pétrolières, de l'aveu même du gouvernement congolais. Concrètement, ce deal conclu consiste à refinancer des arriérés de subventions accordés par l'État congolais aux sociétés privées sur les prix pétroliers. Cela se traduit par un régime de subvention, c'est-à-dire le gouvernement congolais prend en charge une bonne partie du coût du litre de carburant à la pompe. Objectif, préserver le pouvoir d'achat des consommateurs face à la flambée des prix des produits pétroliers à l'échelle internationale. Mais il y a un bémol. L'État congolais avait du mal à honorer ses engagements auprès des pétroliers, situation qui était à la base de plusieurs grèves des opérateurs économiques dans le secteur. Cet accord permettra sans doute non seulement la redynamisation des activités des pétroliers, mais aura également des répercussions positives sur des secteurs interdépendants tels que le transport et l'industrie, annonce le communiqué. Les modalités de remboursement n'ont pas été dévoilées pour l'heure.
Dans la province de la Tchopo, les vivres frais et l'huile végétale sont devenus non seulement rares, mais aussi chers sur les marchés de la ville de Kisangani. À titre illustratif, un carton de poulet de 100 000 francs se vend aujourd'hui à 150 000 francs congolais. Celui des chinchards, communément appelé Mpiodi, est passé de 270 000 francs à 370 000 francs congolais. Il en est de même pour la plupart des condiments, dont les prix ont presque doublé. Cette situation est consécutive à l'absence depuis janvier dernier des bateaux en provenance de Kinshasa, lesquels alimentent la ville en vivres frais. Jacques Moukonkole.
Cette rareté est observée depuis plus d'un mois. Ceci est la conséquence de la rupture des stocks chez les grossistes qui approvisionnent le marché local en ces denrées alimentaires. Rupture due à une forte demande pendant les périodes des fêtes, comme l'explique ce fournisseur.
Le produit ne venait plus comme avant. Ça a traîné même augmentation des prix au niveau du marché des produits agricoles. Avec cette rareté, c'est ce qui a fait que tout le monde se penche vers le vivre frais parce qu'il n'y avait plus assez de produits agricoles sur les marchés. Et c'est ça la raison qui a fait que malgré tous les trois bateaux qui sont arrivés au mois de décembre, s'épuisent au même moment.
Ce désagrément affecte négativement le panier de la ménagère. Témoignage d'une dame.
Acheter vraiment la nourriture, il n'y a pas moyen. Payer des poissons comme ça, on me dit, ça coûte 15 000 francs. J'ai acheté combien de morceaux de poissons? Auparavant, on achetait ça à 5 000 francs.
Un soulagement tout de même, la baisse du prix du haricot sur le marché observée ces derniers jours. Un gobelet vendu en décembre dernier à 7 000 francs se négocie actuellement à 2 000 francs. Les véhicules qui alimentent la ville à partir de l'Ituri et du Nord Kivu, souvent bloqués pendant la saison des pluies, peuvent atteindre Kisangani actuellement pendant cette saison sèche. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La ville de Goma, une ville stratégique, est en train de s'asphyxier. La capitale provinciale du Nord Kivu est maintenant isolée et coupée de presque tous les six territoires qui l'entourent. Des conséquences économiques se font déjà sentir. Denise Lukeso nous en parle.
Difficile à ce jour de s'effrayer les chemins pour aller vers Rutshuru, Masisi, Lubero et Minova, des territoires pourvoyeurs du grand centre urbain qui est Goma. Il n'y a plus de passage, ni de voie de sortie, ni d'entrée. C'est suite à l'occupation de quelques axes principaux de ces territoires par les M23. Aucun coin de ravitaillement, en tout cas, n'est plus libre pour Goma. Actuellement, les quelques femmes courageuses empruntent la voie lacustre pour s'approvisionner en produits vivriers à Minova au sud Kivu. C'est là avec tous les risques qui peuvent en découler. La seule voie d'accès est du sud qui reste pour Goma, c'est le lac Kivu. Mais sans beaucoup de conséquences économiques positives pour la population, estimée à plus de 2 millions d'habitants et sans compter des milliers de déplacés. Cette situation présage déjà l'asphyxie totale de la ville de Goma, avec, comme entre autres conséquences, la rareté et la hausse des produits qui viennent des champs. Plusieurs voix s'élèvent pour demander au gouvernement congolais d'intervenir en toute urgence pour sortir Goma de cette asphyxie dans laquelle l'ennemi la plonge déjà.
Écho d'économie.
Les indicateurs économiques sont toujours au rouge en dépit de la reprise quasi timide des activités agricoles autour de Mbakana sur le plateau de Bateke après la razzia opérée par des miliciens Mobondo. C'est ce qu'affirme Cyprien Banyanga, ancien communicateur devenu agriculteur. Il met le gouvernement congolais devant ses responsabilités afin de pacifier la zone, condition sine qua non pour relancer la production mise en mal par l'insécurité. Écoutez-le dans cet entretien avec Pascal Massé.
Cyprien Banyanga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien chargé de communication à la délégation de l'Union européenne ici à Kinshasa et vous êtes devenu agriculteur. Quel état des lieux pouvez-vous dresser aujourd'hui de la production agricole sur les plateaux de Bateke après l'insécurité née du razzia opéré par les Mobondo?
Merci beaucoup Pascal. Je dois dire que la situation économique va de pair avec la situation sécuritaire. Et Dieu merci, depuis quelques semaines, la situation sécuritaire s'améliore. Il y a quelques mois, on n'allait plus à la ferme, on avait déplacé les tracteurs, mais à présent, les tracteurs rentrent, on a repris du travail, et, ça fait plaisir. Nous avons juste besoin de plus de sécurité de la part du gouvernement. J'invite aussi mes collègues agriculteurs qui sont dans le coin de revenir faire le travail, parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on n'a pas donné grand-chose. Par exemple, la chiprie de la chiquoise a monté sensiblement et d'ailleurs sur le marché on ne voit plus la chikwang parce que les dieux ou les déesses de la chikwang, ce sont les mamas Bateke là qui produisaient de la bonne chikwang qui n'avaient pas de concurrents. Et aujourd'hui cette chikwang là n'est plus visible sur les terrains. Un sac de maca là, il est vendu jusqu'à 70 000 francs congolais, au-delà de 20 dollars pour un sac de maca là, ce n'est pas normal. Le sac de foufou est aussi cher. Nous avons intérêt à soigner l'interland de Kinshasa pour pouvoir approvisionner la ville qui a faim.
À peu près combien d'agriculteurs opèrent dans la zone? Vous faites quel type de production, industrielle ou semi-industrielle?
Nous faisons de l'agriculture, on va dire, vivrière. Donc, le nombre de fermiers n'est pas connu. Ça, c'est, je crois, au niveau du ministère de l'Agriculture. Et encore, parce que moi, depuis que je suis là en 2005, je n'ai reçu qu'une seule visite des agents du ministère de l'Agriculture. Nous produisons essentiellement le manioc, comme c'est la nourriture de base ici à Kinshasa. C'est le manioc et le maïs pour faire notre boule nationale, très appréciée. Mais pour la faire, comme on a des problèmes d'énergie, il y a le makala. Et nous avons, avec l'expérience que j'ai vue à l'Union européenne, avec les sites de Mampou, les sites d'Insio, où c'est des plantations et des plantations d'acacia, qui ont été aussi dupliquées à Ibi. Et nous sommes fiers d'adhérer à cette logique-là de la production du makala vert, du makala biologique qui est issu des plantations d'acacia. Une fois que nous avons coupé les arbres pour faire du makala, on met du feu, ça régénère, il y a de nouvelles plantations qui poussent. Et entre-temps, on a produit du maïs, on a produit du manioc, parce que tout ça se fait en agroforesterie. Mais il y a aussi d'autres cultures qui sont rares sur le plateau de Bateke, comme les légumes, les simples légumes ici, les bitekuteku, les ngaingaï. Souvent en saison sèche, il n'y en a pas. Parce que les gens ne sont pas habitués à faire cette culture et essentiellement à cause du manque d'eau. Ça va vous étonner, mais parfois les épinards, les ngaingaï, les bitekuteku viennent d'un scellé pour être vendus au marché de Mbankana et de Doumi. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est à ça que nous sommes mis. Nous avons commencé à produire des légumes, des amarantes, des aubergines, des ananas. Maintenant, nous sommes en train de planter des bananes plantains.
Quels sont les objectifs à atteindre pour créer de la richesse, selon vous?
C'est arriver à emblaver d'abord une grande partie de ces terrains, de ces savanes qui sont inexploitées. Le gouvernement devrait aider les propriétaires terriens et les paysans à prendre une partie, la moitié, sinon même le quart des terrains et y planter des acacias. Pas seulement pour le climat, mais aussi parce que ça rapporte de la richesse à travers la vente du charbon de bois. À côté de ça, il y a les cultures vivrières et on peut y arriver si nous avons vraiment un soutien conséquent du gouvernement et ce ne sont pas les moyens qui manquent.
Non, je voulais savoir si vous étiez préparé à jouer le rôle de faire des lances de l'économie.
Moi, personnellement, je ne peux pas. Mais si on se met ensemble, on peut le faire. Et on passera par l'agriculture. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Comme on a la paix qui commence à venir au plateau, c'est maintenant qu'il faut faire cette revanche du sol sur le sous-sol, qu'on arrive à produire pour que les Quinois mangent. Il a besoin de manger et c'est son droit.
De votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC cesse de dépendre de l'extérieur ?
Juste cultiver la terre. Et nous pouvons le faire. Que le gouvernement nous rassure, qu'il nous sécurise, donne les moyens. Et nous venons aussi avec nos moyens et nous mettons tous ensemble et nous produisons.
Que pensez-vous de la Banque de Crédit Agricole?
Oui, c'est maintenant qu'elle doit apparaître. Parce que tous les gouvernements, depuis que la dernière banque qui a été créée par Mobutu a disparu, tous les gouvernements qui ont suivi nous ont promis qu'il y aurait des banques de crédit agricole. Et curieusement, jusqu'à aujourd'hui, même pas un début de mise en place de cette banque agricole. Et quand vous allez demander un crédit à la banque, mais les taux sont autour de 14. En réalité, quand vous ajoutez tous les frais qu'il y a payés, vous pouvez aller jusqu'à 50%. Donc ça ne sert à rien d'aller à la banque, vous allez faire faillite, quoi. On va vous mettre en prison.
Cyprien Banyanga, je vous remercie.
Merci beaucoup, Pascal.
Ainsi s'achève Écho d'économie de ce soir. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la fréquence de la vie.